Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Christina Silvero au micro. Cette semaine dans Escale, coup de projecteur sur les migrations. D'après le dernier rapport de l'ONU, le nombre des migrants dans le monde a atteint un record historique. Aujourd'hui, 232 millions de personnes résident en dehors de leur pays natal. Qui sont ces personnes? Pourquoi sont-elles parties? Quel est leur impact sur les transferts de richesses et de compétences ou encore sur le développement des pays d'origine et de destination? Pour répondre à ces questions, nous recevons Bella Ovi, le chef de la section des migrations au département des affaires économiques et sociales de l'ONU.
L'évolution au niveau de la population migratoire globale progresse, mais ça ne progresse pas très, très vite. Si on regarde en relation avec la population globale, par exemple, on voit une certaine augmentation de peut-être 2,8% il y a 10-15 ans vers 3,1 ou 3% de la population globale maintenant. Donc oui, il y a une augmentation. Mais ce n'est pas rapide, même si dans certains pays ou régions, l'augmentation est plus rapide qu'en d'autres.
Alors justement, est-ce qu'il y a une évolution particulière par région? Est-ce qu'on dénote certaines régions qui émigrent plus?
Les migrations sont étroitement liées au développement économique. Donc ça veut dire que les régions, les pays qui ont eu un accroissement économique assez rapide depuis 2000, disons, ont vu leur chiffre de migrants augmenter. Et ce qui est assez clair dans notre nouvel chiffre, c'est par exemple l'attraction des pays qui produisent le pétrole dans l'Asie de l'Ouest. Parce que maintenant, il y a un boom économique là-bas, une demande de main-d'œuvre énorme dans la construction, mais aussi par exemple pour les domestiques. Et on voit le flux maintenant entre, disons, les pays de l'Asie du Sud, comme Bangladesh, Sri Lanka, les Philippines, le Népal ou l'Inde. Ces chiffres ont augmenté beaucoup depuis les dernières 10-15 années. Mais il y a aussi toujours une migration qui continue vers l'Europe, vers l'Amérique du Nord. Mais ce sont des tendances un peu plus égales.
Ce sont des tendances stables par rapport aux pays pétroliers.
Oui, c'est ça. Donc, les migrations, je viens de dire que le plus important, ce sont des développements économiques, le marché du travail, de demandes et des offres d'emploi et la main-d'œuvre. Et puis, il y a aussi... dans les destinations d'Amérique du Nord ou l'Europe, beaucoup d'emplois qui ne sont plus faits par la population locale. Donc, dans l'agriculture, par exemple, si tu mets une annonce dans le journal en France pour cueillir les tomates, par exemple, c'est très, très difficile de trouver les Français qui souhaitent faire ce travail. Donc, il y a une bonne demande pour des boulots qui ne sont pas faits par des locaux.
Quelque part, ça confirme le vieux stéréotype comme quoi les migrants viennent et prennent les boulots que ne veulent pas faire les nationaux.
Tout à fait. Et là, on touche à un problème très important parce que souvent, on entend des mauvaises histoires au niveau des migrants et des migrations et on n'entend pas la contribution que les migrations apportent dans le pays de destination. Donc, en termes généraux, les migrants complémentent la force de travail locale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème parce qu'on voit surtout quand il y a beaucoup de sous-emploi ou quand il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'emploi, il y a des tendances pour certains secteurs d'une certaine compétition entre les locaux et les immigrants, quoique une bonne partie de cette compétition est le résultat d'une immigration irrégulière. Donc, un des objectifs de la communauté internationale est de supprimer ou au moins de réduire l'immigration irrégulière et on pense par ouvrir certaines possibilités de migration, il y a moins de demandes pour une immigration irrégulière. Parce que c'est vraiment très mauvais, pas seulement pour les migrants ou les nationaux, mais pour tout le monde quand les gens sont exploités par des employeurs.
Mais le rapport, les chiffres reflètent aussi énormément de migrations sud-sud. Il ne s'agit plus de la prépondérance sud-nord, mais sud-sud.
Voilà, ça c'est une des tendances qui sont assez nouvelles, quoique on ne devait pas être surpris par ça, parce qu'on sait maintenant que depuis une décennie ou deux décennies, il y a beaucoup de développement dans le sud. Et donc les BRICS, le Brésil, la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud, mais aussi Malaisie, la Thaïlande, ce sont des pays qui se développent assez rapidement. Et comme on a vu dans l'Ouest il y a 50 ou 100 ans, le développement est toujours accompagné avec une attraction pour les migrants.
Est-ce que le Nord continue d'accueillir plus de migrants quand même que le Sud?
Oui, la plupart des migrants est toujours dans le Nord. Si on compare ça avec le Sud, cette migration dans le Nord est aussi poussée par des migrants du Nord. Ce ne sont pas seulement des gens des pays pauvres, mais aussi les pays les plus avancés continuent à demander de main-d'œuvre et surtout de qualifications assez élevées. Donc ça démontre aussi que la migration, ce n'est pas seulement un signe de pauvreté. Oui, on peut être poussé par la pauvreté pour chercher un travail à l'extérieur, mais ça ne veut pas dire que dès qu'un pays se développe, qu'il n'y a plus de migration. La migration fait partie de la globalisation et du développement économique, même dans les pays les plus industrialisés.
Au Liban, les domestiques, les femmes de ménage, viennent le plus souvent d'Afrique de l'Ouest ou d'Asie. Notre premier observateur va nous montrer que ces pauvres femmes sont victimes de discrimination au quotidien.
Et en Chine, les travailleurs originaires des campagnes retournent maintenant travailler, mais des millions arrivent à Pékin pour la première fois, espérant y trouver un emploi.
La région de Lampedusa, au large de la péninsule italienne, théâtre d'un nouveau drame de l'immigration ce jeudi soir, avec le naufrage d'un bateau qui transportait plus de 100 personnes. Jusqu'à présent, seuls 56 migrants ont été sauvés. Un corps a été repêché. On est sans nouvelles de tous les autres passagers.
Est-ce qu'il y a un profil type aux migrants?
Je dirais qu'il y a plusieurs profils types. On a déjà parlé un peu de main-d'œuvre moins qualifiée pour travailler dans le secteur d'agriculture. Il y a beaucoup de domestiques, et il y a beaucoup de femmes dans le Nord ou ailleurs qui peuvent avoir une carrière parce qu'il y a un domestique à la maison. Donc la demande pour les domestic workers, c'est aussi énorme. Mais on voit vraiment maintenant une compétition du talent dans le Nord.
Du savoir, des connaissances.
Voilà, exact. Donc il y a vraiment une demande en Amérique, en Europe. On voit vraiment presque une guerre de talent parce que le talent, c'est très important pour faire des inventions, pour créer des industries, des entreprises, etc. etc. Donc c'est vraiment très, très difficile de dire qu'il y a un seul type de migrant. Une autre migrant, c'est une migrant forcée, comme les réfugiés. Les réfugiés, c'est un certain type de migrant avec certains droits et responsabilités. Mais comme il vit dans un pays où il n'est pas né, il fait partie de notre population de migrants internationaux. Et c'est clair que les politiques et les conséquences d'une migration forcée des réfugiés nécessitent des politiques qui sont complètement différentes quand on compare ça avec une planification du marché de travail, etc., etc. Donc, ce sont vraiment beaucoup de différents types de migrants qui ont besoin de différentes politiques pour gérer.
Alors, vous avez parlé de guerre de talents. Mm-hmm. Est-ce que cela provoque la fuite des cerveaux?
Effectivement, il y a une fuite de cerveau si on définit ça d'une migration des gens qui sont hautement qualifiés. Normalement, ce n'est pas un problème, même dans les pays industrialisés. C'est normal, c'est important que ça prenne place, cette mobilité, cet échange des idées, si vous voulez. Mais il faut aussi remarquer pour certains pays en voie de développement, surtout les pays avec une population assez petite, que cette émigration des cerveaux peut poser un problème. Je parle des pays anglophones, par exemple, dans les Caraïbes, là où le nombre de médecins qui reçoivent leur diplôme chaque année, c'est très limité. Et si la moitié émigre vers le Canada, les États-Unis, les Angleterres, effectivement, ça va poser un problème au niveau de la santé dans le pays d'origine. Et ça peut même freiner la réalisation des buts de développement. Mais ce n'est pas une tendance. Dans tous les pays en voie de développement, dès qu'on a une population qui est plus grande, l'effet de cette émigration des gens hautement qualifiés a moins d'impact.
Est-ce que c'est une tendance qui a évolué? Est-ce que les gens ont pris conscience du fait qu'en fait, il fallait peut-être retenir ou donner des motivations aux gens hautement qualifiés dans leur propre pays?
Il y a pas mal de pays qui réfléchissent quelle politique on peut peut avoir pour résoudre ce problème. Et certains pays ont essayé de limiter l'immigration. Mais franchement, c'est très difficile pour dire aux gens qu'il ne faut pas chercher un emploi à l'extérieur. Et franchement, ce n'est pas conforme des instruments internationaux légaux qui disent que les gens doivent émigrer là où ils veulent.
Donc on plaide plutôt pour une liberté de migration.
Oui, au niveau des immigrations, oui. Mais pour aborder ce problème de fuite de cerveau, il faut vraiment penser à des méthodes plus positives. Par exemple, on voit déjà pas mal de programmes d'investissement des institutions dans le Nord qui demandent cette main-d'œuvre, qui investissent dans l'entraînement des gens dans le Sud. Ils paient pour l'entraînement et pour l'éducation avec le but qu'un certain pourcentage de gens qui vont suivre cette éducation vont sortir plus tard pour l'immigration. Ça, je trouve, c'est vraiment un exemple positif de la coopération et ce genre de coopération, on cherche à généraliser et à analyser et promouvoir avec le dialogue d'autres niveaux qui vont prendre place ici à l'ONU.
Alors, que nous disent ces chiffres sur la situation des migrants africains ou d'Afrique subsaharienne?
Une tendance qui est assez importante, si on regarde la tendance depuis 25 ans, il y a beaucoup moins de migrations forcées en Afrique. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Moi-même, j'ai travaillé beaucoup avec les réfugiés en Afrique et dans les années 90, on a vu beaucoup de conflits et beaucoup de migrations forcées. Vous savez bien, les conflits au Rwanda, la guerre en Angola, Sierra Leone, Libéria, il y avait beaucoup de conflits et beaucoup de migrations forcées. Maintenant, pas mal de ces conflits sont résolus. Les réfugiés sont rentrés chez eux et on voit donc un accroissement des migrations volontaires. Et ça, c'est donc une bonne nouvelle et aussi un résultat de l'accroissement économique en Afrique pendant les 10-15 années.
Les pays africains sont donc aussi des pays d'accueil.
Voilà. On vient de parler de la migration sud-sud et on voit dès qu'il y a des possibilités économiques, il y a un accroissement, une demande de ressources, des investissements. Ils ont besoin de main-d'œuvre et tu vois une attraction des migrants aussi en Afrique pour les mines, pour l'agriculture, etc., etc. Mais aussi, on continue à voir une bonne migration vers l'Europe, mais aussi vers l'Amérique maintenant, parce qu'il y a beaucoup plus d'Africains qui se sont réinstallés aux États-Unis si on compare ça avec il y a 20-30 ans.
Alors, ces chiffres sortent en vue du dialogue de haut niveau qui va se tenir prochainement au sein de l'Assemblée générale. Alors, qu'est-ce que l'on souhaite voir découler de ce dialogue de haut niveau? Comment est-ce que l'on plaide l'apport, la contribution des migrations sur le plan économique et social?
Le but de la dialogue de haut niveau est d'améliorer les apports positifs des migrations et de réduire les conséquences négatives. On a déjà parlé un peu des aspects positifs. On n'a pas parlé, mais ce qui est un apport assez positif, ce sont des fonds qui sont envoyés par la migration chez eux, dans le pays d'origine, aux familles. Et ces fonds sont maintenant 400 milliards de dollars par an, qui est 4 fois le fonds pour le développement officiel. Donc ces fonds sont énormes et on cherche, avec certaines politiques, de voir si ces fonds peuvent être utilisés d'une façon plus productif.
Comment? En apportant un appui de structure ou de modèle ou comment?
Oui, pour assurer par exemple que les migrants ont accès à des banques formelles pour avoir des empreintes avec un taux d'intérêt réduit, pour assurer qu'ils peuvent emprunter des petites sommes. Donc ce sont des banques régionales de développement et la Banque mondiale qui travaillent sur ça par exemple. Une autre façon pour améliorer le transfert de fonds est de réduire les tarifs. Parce que dans beaucoup de corridors, les tarifs sont souvent supérieurs à 10 ou même 15%. Donc, on espère que l'Assemblée générale va adopter en octobre ou un peu plus tard, peut-être un objectif quantitatif pour réduire les coûts de transférer des fonds. Il y a une certaine monitoring system qui est développé dans la Banque mondiale pour collectionner de l'information, pour monitoring cet objectif, quoi. Donc, je pense que c'est tout à fait faisable.
Et c'est avec ce plaidoyer pour l'amélioration des conditions des migrants que se referme cette édition d'Escale. Escale, le magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies, présenté cette semaine par Christina Silvero avec la collaboration de Florence Westergaard. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.